Je suis Adrien Garcia, entrepreneur, designer et cofondateur de la marque de vêtements Réunis. Et vous écoutez The Bold Way. L'avenir appartient à ceux qui remettent en cause l'ordre établi. Mais comment réinventer les règles, créer des projets iconiques et des œuvres qui marqueront l'histoire? The Bold Way est le podcast qui rentre dans la tête de ceux qui excellent dans leur domaine. Mode, divertissement, food, design, art ou business. Leur point commun? Le travail, l'audace, l'innovation et une attention toute particulière à la créativité et à l'esthétique. Ma mission est de décortiquer leur méthode et leur état d'esprit à travers des interviews longues et sans filtre, pour vous donner les clés de leur succès et vous inspirer à créer votre propre chemin. The Bold Way est plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement qui encourage chacun à trouver sa propre voie, à tracer son propre chemin et à innover dans son domaine. The Bold Way est là où la créativité et l'innovation rencontrent le business. Bonne écoute. Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans The Bold Way, je suis aujourd'hui avec Thomas Subreville. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Pour mettre un petit peu de contexte, là on est sorti, on est à l'extérieur, où est-ce que nous sommes?
Nous sommes à Palais Royal, très exactement entre mon appartement et mon bureau. Ouais. Je vis dans le premier, je travaille dans le deuxième. Si on est là, c'est parce que l'endroit où je travaille le plus, c'est sur le chemin entre chez moi et le bureau. C'est rarement au bureau, rarement chez moi.
Ouais.
Donc je travaille environ 8 minutes par jour.
C'est ça.
Et le reste du temps, je fais semblant.
Ok, c'est vraiment là où tu as des fulgurances, où tu trouves tes idées, c'est ça?
Ouais, en fait, j'ai un peu une théorie, c'est que je trouve jamais d'idées quand j'en cherche. Et je pense que ça marche pour beaucoup de gens. En fait, on a des recettes un peu préfabriquées en tête. Ça, ouais. C'est facile à faire. On peut tous le faire au bureau. C'est des formules, on sait que ça marche, quoi. Mais les vraies bonnes idées, elles arrivent jamais quand on les cherche. Elles arrivent souvent quand on les cherche pas, justement. Donc c'est souvent en marchant, en courant, dans le train, dans l'avion, en attendant, peu importe. Mais c'est rarement dans un lieu de travail. Donc c'est pas que je le provoque moi-même, mais c'est vrai que je remarque que mon cerveau fonctionne différemment sur le chemin de mon bureau. Alors qu'une fois que j'ai passé le pas de la porte, je me mets un peu en mode 100% pro, comme on dit.
100% pro.
Je ne suis pas hyper confortable avec 100% pro.
En plus. ma deuxième question, c'est qui tu es en fait? Comment tu te présentes au monde? Quand on demande qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Thomas? Qu'est-ce que tu dis?
Ça dépend un peu à qui je m'adresse, à qui je me présente, pour être honnête. Parce que c'est un peu une question à tiroir pour moi. Mais globalement, toute l'idée, vraiment, si je dois schématiser, toute l'idée derrière ce que je fais, c'est créer une structure qui me permette de faire un petit peu ce que je veux. C'est-à-dire qu'en grandissant, j'ai jamais vraiment voulu choisir. J'ai toujours trouvé ça assez cruel de choisir. Je prends souvent cet exemple du dessin qu'on fait quand on est gamin à l'école avec la maison carrée, le toit triangle, le papa, la maman, les enfants. On regarde ces dessins, on se dit ça c'est moi quand je serai adulte. Je me suis toujours dit, depuis le jour où j'ai fait ce dessin, que c'était assez triste de répondre à toutes ces questions d'un coup. Et je trouve qu'on y répond un peu trop jeune. À l'école, on nous demande très tôt de choisir. Je crois qu'à 13-14 ans, on demande déjà de s'orienter. Et j'ai jamais été à l'aise avec le choix, mais plutôt avec la liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment articulé autour de cette idée de liberté, d'indépendance. Même si je ne suis pas seul et je ne bosse pas tout seul, je bosse avec des marques, avec beaucoup d'organisations différentes. Mais cette liberté d'action et surtout d'avoir en permanence la porte ouverte à faire tout un tas de choses différentes, c'est réellement ce qui est le plus important dans mon métier, entre guillemets. Et ensuite, de manière plus pragmatique, je fais ce qu'on appelle la direction créative au sens très large du terme. C'est un terme qu'on voit un peu partout de nos jours, donc ça veut tout dire et rien dire. Mais ça va de faire mes propres expos, sortir mes propres livres, bosser avec des grandes marques en tant que conseiller, refaire toute leur expression narrative, culturelle, créative. Voilà. C'est un stretch entre des choses très niches, indépendantes et des choses beaucoup plus d'une magnitude beaucoup plus importante d'un point de vue commercial.
Mais pourquoi est-ce qu'on vient chercher Thomas Subreville? D'ailleurs, ta boîte s'appelle Il Studio, hein. Peut-être il faut le dire à un moment donné. Pourquoi les gens viennent te chercher, toi? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher en toi?
Je pense que ce qu'ils viennent chercher, c'est, et ça c'est très important, c'est plus une vision, un langage, un esprit, vraiment pour schématiser, plutôt qu'un savoir-faire ou un chant en particulier. Mmh. Ça, c'est un truc sur lequel je suis très vigilant, pour le coup, de ne pas m'enfermer dans un chant particulier ou dans un savoir-faire ou dans un skill set particulier. Donc, ce qu'ils viennent chercher... En fait, ce qui est marrant, c'est qu'eux-mêmes ne savent pas trop ce qu'ils viennent chercher. Eux-mêmes poussent la porte par un endroit et, en fait, on ressort par un autre, quoi. C'est vraiment... Tiens, j'ai vu cette chaise que tu as designée l'an dernier. J'ai cherché à refaire toute l'expression créative de ma marque, quoi. C'est vraiment des trucs comme ça. C'est des ponts un peu particuliers. Mmh. Ou tiens, j'ai vu cette expo à Tokyo que tu as fait. J'aimerais bien dessiner une collection de vêtements, quoi. Tu vois, c'est vraiment... Ils viennent chercher un langage plus que... Et c'est vraiment le but de ce que je fais. Mmh. Plus qu'une liste de livrables, entre guillemets, quoi. C'est très rare qu'on m'approche avec une idée ultra précise en tête. Au contraire, ce qu'ils viennent chercher, c'est une conversation.
Et d'ailleurs, peut-être pour illustrer un petit peu tout ça, tu peux nous donner des exemples de choses que tu as faites, en tout cas les choses dont tu es peut-être le plus fier, ou même pas, enfin, en tout cas nous donner un petit peu le spectre des choses que tu as pu faire et que tu fais.
Ouais, bien sûr, il y a rien, enfin, ce dont je suis le plus fier, c'est la globalité, on va dire. C'est difficile pour moi d'extraire un truc ou un autre, mais ce dont je suis extrêmement fier, c'est justement ce stretch entre... Je te donne un exemple très récent, pour le coup, parce que c'est plus simple pour moi, de refaire, par exemple, toute la structure culturelle ou narrative et le, comment on dit, brand expression Adidas, de toute la boîte, et d'écrire le futur de cette boîte-là, ou de... faire la même chose, de refondre entièrement toute l'expression culturelle de certains aspects de marques comme Mercedes ou Nocta, ou enfin voilà, tout un tas de choses comme ça, et en même temps de bosser sur des sujets beaucoup plus niche, comme le projet sur lequel je travaille depuis 3 ans qui s'appelle ADDPMP, Attention Deficit Disorder Prosthetic Memory Program. On en parlera, j'imagine, ouais, un peu plus tard, mais et qui pour le coup est vraiment complètement autoproduit et n'a rien à voir avec les marques, et ou alors faire mes propres expos. Enfin voilà, c'est ce stretch là d'aller sur des trucs macro et micro en même temps qui je pense fait l'identité de mon travail aujourd'hui.
Quand tu dis tes propres expos, c'est quoi? Tu présentes quoi dans tes expos?
Là, par exemple, j'ai fait un truc à Tokyo il y a quelques mois où je présentais une collaboration avec un duo d'artistes qui s'appelle Soft Baroque. Eux, ils font des meubles, c'est très vite résumé, mais en tout cas, ils sont designers. On a fait toute une série de chaises et de tabourets ensemble autour justement de ce projet dont je viens de parler, à ADDPMP. Et je présentais aussi une pièce musicale qui a été écrite par Black Hen, qui est un artiste et chorégraphe anglais. Et bien sûr, le projet dans sa globalité. Donc c'est quelque part entre une expo, une installation, une performance, quoi.
Hyper intéressant. Comment on construit ce parcours-là? J'aime bien revenir quand même un petit peu sur le parcours de mes invités. Qu'est-ce qui t'a façonné et qu'est-ce qui fait que tu as... Parce que c'est finalement des profils comme les tiens, ils sont assez rares. Cette recherche totale de liberté et cette soif de liberté et de faire ce que je veux un peu quand je veux, et d'être capable de travailler aussi bien avec des gros groupes comme Adidas que faire des choses très très niches et avoir cette posture un peu d'artiste finalement. C'est quoi les milestones, peut-être pour poser la question plus simplement, quels ont été les différents échelons, enfin, les différentes étapes qui t'ont amené à ça? Comment se construit, quoi?
Déjà, je pense que la première chose, c'est qu'il faut assumer les deux. Encore une fois, on retombe dans la question des choix.
Ouais.
Je pense que c'est bien d'assumer les deux. Moi, de travailler avec Louis Vuitton, Hermès, Chanel, Nike, ou peu importe qui, ou Mercedes-Benz, je suis autant confortable dans ce contexte-là que créer mes propres projets, entre guillemets, plus artistiques ou personnels. Donc ça, c'est déjà un premier point, parce que je sais que beaucoup d'artistes sont pas super à l'aise avec le fait de bosser avec des marques.
Et, tu te définis comme artiste aujourd'hui?
Non, pas spécialement. J'évite de me définir, en fait.
D'accord. Ouais.
C'est, encore une fois, c'est ça qui m'octroie la liberté de faire ce que je veux. Si j'étais artiste, il faudrait que je vende mes œuvres pour vivre, ce qui n'est pas le cas. Et c'est justement tout ça, toute cette dynamique qui me permet de faire ce que je veux. C'est que, pour parler de manière très crue, je gagne de l'argent avec des boîtes qui en ont beaucoup. Et ça m'octroie la liberté de bosser sur des projets, sur n'importe quel projet, sans attendre de ces projets qu'ils vendent pour vivre. Mmh. Voilà. Je sais que peu importe ce que je fais, que je le finance moi-même ou pas, c'est pas un souci, parce que j'attends pas de ça, j'attends pas de la vente de ces œuvres entre guillemets pour exister, donc ou pour vivre de manière très, enfin de manière financière, on va dire. Mmh.
Très pragmatique.
Donc, c'est en fait l'un entraîne l'autre en permanence. Les projets commerciaux entraînent le fait de pouvoir faire ce que je veux à côté, et le fait que je fasse ce que je veux à côté entraîne beaucoup de liberté dans l'approche des projets commerciaux aussi. Mmh. Donc pour moi c'est exactement tout à l'heure tu parlais de l'approche des clients entre guillemets, comment les gens approchaient le studio. Bah c'est exactement ça en fait. C'est les projets entre guillemets plus artistiques qui font qu'ils viennent taper à la porte. Et les projets commerciaux en question sont ceux qui me permettent de faire ce que je veux à côté, quoi. Mmh. Voilà, c'est un peu ça la formule. Mais comment on en arrive là ? Très honnêtement, il y a beaucoup de freestyle, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire que j'ai toujours évité d'avoir une vision à long terme, personnellement. Même si c'est quelque part... Ouais, excuse-moi, vas-y.
Non, mais c'est quoi le... J'aime bien poser cette question. C'est quoi la destination finale ?
Non, en fait, tout l'objet, c'est de jamais, c'est de paver la route sans savoir où elle va. Mmh. C'est tout l'objet de cette trajectoire-là. C'est que si je connaissais la destination finale, j'aurais plus envie d'y aller, en fait. Et c'est ça qui, je pense, qui fait que tu avances de cette manière-là. C'est ça, je pense, qui fait que tu testes tout un tas de choses qui fonctionnent ou pas, d'ailleurs. Hein, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait qui me sont pas apparus nécessaires, ou alors je me suis aperçu que c'était pas mon truc, que j'étais pas particulièrement bon là-dedans. Mais justement, le but, c'est d'avancer avec une vision à court et moyen terme sans trop intellectualiser la destination finale, parce que je pense que c'est très difficile de toute façon d'aller d'un point A à un point Z avec un truc prédéfini, parce qu'on change, tellement. Quand on a commencé le studio, j'avais 25 ans, quand j'ai commencé à travailler j'avais 19 ans, donc tu vois, c'est impossible à 19 ans de se dire je vais faire ça dans la vie.
Ouais,
c'est, encore une fois, on en revient à cette histoire de choix. Hein, mais...
Et alors, qu'est-ce qui te drive ?
Ce qui me drive, c'est les envies qui changent beaucoup, les opportunités aussi, et surtout les conversations, en fait. Parce que je crois que c'est ça le plus important dans ce que je fais, c'est les conversations. Et encore une fois, souvent, quand un projet commence, il y a une petite idée, un petit outline du projet, et puis en discutant, ça devient complètement autre chose. Tu vois, c'est encore une fois cette liberté d'action qui me drive, et c'est surtout, bon, on en parlait juste avant de commencer l'interview, mais de garder cette liberté, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus difficile aussi, parce que, en fait, c'est ça le projet. Le projet, c'est garder la liberté. Ouais. Et pour ne pas s'enfermer d'un côté ou de l'autre, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup j'aime pas ce mot stratégie, mais ouais, il y a quand même pas mal de calcul derrière ça. Quand je dis calcul, c'est pas dans le sens machiavélique, bien sûr, mais c'est plutôt dans le sens... en ce moment j'ai envie d'aller vers là, comment je fais pour y aller sans m'y enfermer non plus, quoi. Voilà. Donc il faut en permanence se remettre en question, en permanence essayer. Et aussi, quelque chose d'important, puisque tu parlais de parcours, je pense que accepter soit en quoi on est bon, soit en quoi on n'est pas bon, c'est aussi un élément déterminant, surtout quand on est autodidacte comme moi, qu'on a un peu tendance à tout essayer, à vouloir tout faire. Les gens autodidactes se reconnaîtront, déléguer c'est très compliqué. Voilà, il y a une espèce de vu qu'on n'a pas appris de métier, on a un peu le droit de tous les faire, donc c'est un peu sans fin. Je pense que essayer des choses et accepter le fait qu'on n'est pas forcément bon dans ces choses-là, et les mettre de côté, ou alors bosser avec les bonnes personnes quand il s'agit de ce genre de travaux, c'est vraiment clé, quoi. Je pense que pour moi, il y a eu un point déterminant le jour où j'ai compris ça. Ça, c'était il y a déjà longtemps, mais le jour où j'ai compris que tout faire, ça servait à rien, en fait, que c'était pas utile, et qu'il valait mieux se concentrer sur les tâches sur lesquelles on était bon, et travailler avec les bonnes personnes pour le reste. Ça, c'est un vrai premier shift. Et le deuxième shift, en ce qui me concerne, c'est vraiment très cru de le dire comme ça, mais j'aime bien le dire comme ça quand même, c'est facturer pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que ce que j'ai eu envie depuis quelques années maintenant, c'est d'écrire sur ma facture ce que je sais vraiment faire et ce pour quoi j'estime être payé. Et je pense que ça, c'est un truc...
T'écris quoi alors ?
ça, c'est très très variable encore une fois, il y a tout un tas de choses différentes, mais par, enfin, je te donne un exemple, c'est que le studio pendant longtemps ça a été perçu comme un... On a été perçu comme faiseur d'image entre guillemets, ou directeur artistique ou créatif, appelons ça comme on veut. Moi, être facturé des images, c'est pas un truc qui m'intéresse par exemple. Parce que j'estime que la conversation en amont des images, j'estime que l'articulation culturelle, narrative d'un projet est beaucoup plus déterminante que les images qui en découlent. Et j'estime, mais là vraiment à titre personnel, être meilleur pour articuler quelque chose d'un point de vue narratif ou culturel que produire réellement des images. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'être payé pour ce que je sais faire. Mmh. Voilà. Et je pense que ce shift-là, d'accepter un moment de réfléchir à justement pourquoi on est payé et pourquoi on a envie d'être payé. Encore une fois, c'est très cru de parler comme ça, mais je pense que c'est la réalité de beaucoup de gens. Qu'est-ce qui fait que notre réflexion a de la valeur ? Voilà. Mmh. Je pense que ta réflexion a une certaine valeur, la mienne aussi, tous les gens autour de nous aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Et je pense que comprendre que t'as beau être directeur créatif, musicien, artiste, curateur, ce que tu veux, ou même chirurgien, c'est, encore une fois, c'est des cases, mais à l'intérieur de ces cases, il y a une énorme latitude qui fait qu'on n'est pas tous bons dans les mêmes choses. Et je pense que cette réflexion, être aligné avec la manière dont on se vend, être aligné avec la manière dont on communique son travail, être aligné avec la manière dont on facture son travail, c'est quelque chose qui est vraiment déterminant dans une carrière, à mon sens. Parce que ça permet d'être beaucoup plus en phase avec soi-même, avec ce qu'on dit. Encore une fois, si demain on me paie pour... J'arrête pas de parler de... On me paie, hein, mais je suis pas vénal. Hein,
il aime bien la thune, Thomas.
Non, mais surtout que ça fait pas vraiment partie du calcul, mais c'est important, je pense, de se... En fait, j'ai la phrase en anglais qui me vient depuis tout à l'heure et j'ai pas envie de parler franglais, donc j'essaie
Vas-y,
de...
Vas-y, ça s'appelle The Bold Way, on peut.
Non, mais je pense que de value son c'est horrible de parler comme ça, désolé à tout le monde, de value son propre
évaluer, ouais,
sa propre réflexion, d'évaluer sa propre, de donner de la valeur à sa propre réflexion, c'est vraiment extrêmement important. Et je vois beaucoup de gens qui ont énormément de talent autour de moi qui ont pas forcément ce réflexe là alors que ce réflexe là je le trouve assez déterminant. Et une fois qu'on est en phase avec ça, tout devient plus simple parce que il suffit de dire ce qu'on pense. Voilà. On n'est pas en train de défendre un métier ou de défendre des idées ou de défendre des images juste parce qu'elles sont cool ou juste parce que c'est ce qu'il fallait faire. On défend ce qu'on pense être la meilleure chose à faire.
C'est quoi le shift ? Comment t'es arrivé à ça ? C'est quoi le moment de bascule qui t'a fait prendre conscience de ça ? T'as eu un projet en particulier où ça s'est pas très bien passé et ça t'a saoulé ?
Je crois pas que c'est un projet en particulier, mais par contre, au fil des années, bon, ça fait longtemps que je fais ça quand même, donc au fil des années... T'essaies tout un tas de choses, encore une fois, il y en a qui marchent pas, il y en a qui marchent, et c'est à chaque fois que ça fonctionne, à chaque fois que tu fais quelque chose, ou que tu dis quelque chose, ou que tu penses quelque chose qui s'avère juste, tu franchis inconsciemment un cap, quoi, tu vois, tu franchis un petit step dans ta réflexion, dans ta carrière. Et surtout dans ta définition de toi-même, quoi. Tu vois, et c'est, encore une fois, c'est une question à laquelle on répond jamais vraiment. C'est un truc un peu trop... c'est un terrain un peu trop philosophique de toute façon pour tout de suite. Mais c'est hyper important de garder ça en tête en permanence. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Pourquoi ? En quoi je suis bon ? Voilà, être en phase avec soi-même. On l'est jamais vraiment, hein, mais essayer d'être en phase avec soi-même, c'est ultra déterminant.
Donc toi, t'es bon sur ça, sur les idées, finalement ?
Ouais, les idées, ou encore une fois l'articulation narrative, culturelle. Je pense que si je devais faire un skill set de studio aujourd'hui, la curiosité, ça viendrait en premier, en fait. Ouais. La curiosité, c'est un truc qu'il faut cultiver comme un muscle, en fait. Il faut l'entraîner comme un muscle, c'est un truc qu'il faut pas, surtout pas perdre.
Comment tu la cultives, cette curiosité ?
Je la cultive en m'octroyant des plages horaires dédiées à ça, et je la cultive aussi dans ma méthodologie de travail. C'est que tout ce que je fais découle à un moment ou à un autre d'une certaine recherche, de la curiosité, de tout un tas de choses que j'ai vues au préalable. C'est-à-dire que quand un projet arrive, c'est très rare que je recherche pour ce projet. J'estime que tout est déjà là, que ça soit dans ma tête, dans mon téléphone, dans mon laptop ou dans un livre que j'ai déjà acheté, peu importe. mais j'estime que tout est déjà là. Donc toute ma méthodologie de travail est basée sur la curiosité finalement. Mmh. Tu vois, c'est, si je suis pas curieux, je peux arrêter de travailler demain parce que j'ai plus d'ingrédients pour travailler. En fait, c'est je crée les ingrédients pour travailler, je crée la formule avec laquelle je fonctionne en permanence à travers justement cette curiosité. Et ensuite, je pense que la curiosité, c'est un peu alors. Je pense que c'est plus acquis qu'inné, mais c'est vraiment un truc qui... C'est quelque chose de l'enfance, quoi. Tu vois, c'est en grandissant que tu cultives cette curiosité. Et je pense qu'il y a des choses qui se passent dans ton enfance. Je pense qu'il y a des choses qui... Il y a des moments clés dans ton enfance dont sur le coup, tu ne te rends pas compte. Il y a quelqu'un qui va te parler d'un truc. Tu as 8 ans. Tu ne t'en rends pas bien compte. Tu penses que c'est anecdotique. Mais en fait, c'est quelque chose qui va te suivre toute ta vie. Et moi, je me rappelle la première fois... Moi, j'ai un grand frère, par exemple, qui a 50 plus. La première fois qu'il m'a parlé de skate, quand j'étais gamin, voilà, je me suis mis au skate quand j'avais 7 ans. Lui était plus âgé, donc il connaissait déjà. Et la manière dont il m'en parlait, c'est waouh, dans ma tête, c'était fou. Tu sais, ce fameux truc des souvenirs d'enfance, ta mémoire, à chaque fois qu'elle va puiser un souvenir, elle l'amplifie et elle le tweak un petit peu. Moi, j'ai vraiment ça. Et tu vois, quand tu te rappelles des choses de ton enfance, tout est plus grand, tout est plus beau. Si tu revoyais les mêmes choses aujourd'hui, ça te paraîtrait un peu anecdotique.
Un peu naze, ouais.
Et la seule différence, c'est le langage qu'on a utilisé pour communiquer ces choses-là dans ton enfance. Et encore une fois, c'est des choses, ça peut venir d'un prof, ça peut venir de la famille, ça peut venir d'à peu près n'importe qui. Mais il y a des moments clés comme ça. Et une fois que tu as ressenti cette espèce de « waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est incroyable », tu es un peu à la recherche de ce feeling-là tout le reste de ta vie, en fait. Et je crois que, pour moi, la curiosité, elle s'entretient à travers ce prisme-là, elle s'entretient à travers la recherche de quelque chose qui va me faire complètement
vriller
ou réfléchir ou tu vois, quelque chose que je connaissais pas avant, en tout cas ce feeling là il est incroyable, et je pense que c'est un peu la recherche permanente. Tu vois, on est un peu en recherche permanente de ce feeling là le même feeling que quand t'étais gamin, la première fois qu'on t'a parlé de musique, la première fois qu'on t'a parlé, dans mon cas, de musique aussi d'ailleurs, et de skate ou de sport, ou tu vois, même quand j'étais gamin, vraiment tout petit, je kiffais le foot, tu vois. La manière dont j'imaginais tout ce monde-là, elle est un peu fantaisiste parce que tu le vois à travers ton imagination d'enfant.
C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que tu pousses toutes les portes, tu vas tirer des...
Non, pas spécialement. Je pense qu'il y a des... Tu zones un peu comme là, par exemple, on est dans un parc, je vois un peu le truc de la même façon, c'est-à-dire que tu vas aller zoner un petit peu dans un secteur, un physique ou mental d'ailleurs, ou que ça soit dans un livre, que ça soit sur internet, que ça soit même physiquement dans un lieu, et puis tu vas voir ce que tu vois, c'est un peu, c'est pas vraiment calculé en fait tout ça, il y a un peu des obsessions, on fonctionne tous différemment. On a des obsessions par période, et puis des fois c'est des trucs qui restent sur le long terme, des fois c'est des trucs qui disparaissent, qui reviennent plus tard. Mais globalement, ouais, la recherche de ce feeling-là, la recherche de ce waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, juste ça en fait, c'est ça, je pense. Non, ça arrive très peu, hein.
C'est assez rare.
On va pas se mentir,
c'est très, beaucoup
très
diguer,
rare.
Ouais.
C'est très rare d'avoir ce feeling-là, mais
quand ça arrive, c'est jouissif, ouais.
Mais c'est jouissif, et du coup, t'es un peu en flux tendu parce que de recherche permanente, justement en espérant que ce moment-là arrive, quoi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent bien plus tôt que ce qu'on le pense, et c'est pas vraiment un calcul d'adulte, c'est pas vraiment un calcul carriériste ou quoi que ce soit, c'est juste que voilà.
C'est quoi le dernier truc qui t'a éclaté ?
Dans quoi je suis en ce moment ? Moi je suis un peu ouf de nature globalement,
c'est-à-dire un peu ouf.
J'aime beaucoup marcher, j'aime beaucoup aller en montagne, j'aime beaucoup je cours beaucoup aussi, c'est quelque chose qui me rend, je pense, différent. Je pense que c'est l'endroit où je suis le plus moi-même, c'est dans la nature, quoi. J'ai grandi dans le sud de la France, entre les Pyrénées et la Méditerranée, donc j'ai grandi un petit peu dans cet élément-là, et c'est quelque chose qui va me suivre toute ma vie. Donc dès que je me remets dans cet élément-là, je redeviens un petit peu l'être complet que je suis censé être. Donc c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, et récemment, j'ai des périodes comme ça, il y a des moments où je ne recherche plus, mais récemment, je suis en recherche permanente de ce frisson. C'est un peu la même chose, hein, qu'on disait avec la curiosité. Ce frisson-là, pour moi, il n'y a rien de plus ouf qu'arriver en haut d'une montagne ou de voir un paysage qu'on n'a jamais vu avant. Pour moi, personnellement, c'est le sentiment le plus ouf. Donc je suis un peu en recherche permanente de ce truc-là. Cet été, par exemple, j'ai pris 8 semaines pour aller marcher un peu partout. J'ai marché 700 km, je crois. J'ai vu tout un tas de trucs que j'avais jamais vu avant, et je suis rentré à Paris plus que comblé de, d'image mentale et de feeling. Et voilà. Donc c'est encore une fois, c'est exactement le même mécanisme, c'est cette espèce de soif de ce thrill, comme on dit, en permanence, de rechercher ce petit frisson-là. Je pense qu'il y a, un truc hormonal, il y a un truc hormonal derrière tout ça, tu vois. C'est tu recherches la sécrétion de certains types d'hormones. En grandissant, fatalement, ça devient de plus en plus difficile parce que tu deviens un petit peu plus accoutumé de tout. Tu deviens de plus en plus accoutumé d'un certain mode de vie, d'un certain confort. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font que ça devient de plus en plus difficile de se contenter à ce niveau-là. Donc encore une fois, il y a des périodes et je navigue entre tout un tas de choses différentes. Et des fois, ça va être la musique, des fois, ça va être la nature, des fois, ça va être tout un. Enfin, voilà, c'est le spectre est hyper large. Mais il y a aussi mon travail là-dedans, je dois le dire. Et je pense que une des raisons qui fait que je fais ce que je fais, c'est ça aussi, c'est la recherche permanente de ce frisson, que ce soit un sentiment de fierté, que ce soit un sentiment d'épanouissement, que ce soit un sentiment de bonheur, peu importe, mais il y a une recherche un peu permanente aussi de ce nouveau projet, de ce nouveau truc. C'est pareil, hein, c'est pas le cas sur tous les projets, loin de là, mais de temps en temps, on fait une chose dont on est particulièrement fier ou avec lesquels on se sent particulièrement en phase. Et ce feeling-là, c'est un peu la même chose que voir un paysage qu'on n'a jamais vu avant ou tomber sur une information qu'on ne connaissait pas avant, quoi.
T'as quel âge aujourd'hui ?
43.
Et tu disais que tu étais autodidacte, donc tu t'es formé vraiment sur le tas. T'as pas fait d'études ?
Non, zéro.
T'as pas fait Pain in Gain ou un truc comme ça ?
Non, zéro.
Ouais.
Zéro études.
C'était un frein pour toi ou pas du tout ? Ça a été plutôt un accélérateur ?
Franchement, je le saurais jamais. Si, je pense que si j'avais fait des études, je ferais pas ce que je fais, en tout cas pas de la même façon, parce que je réfléchirais différemment. Ça a dû être une lacune à un certain moment, je pense surtout au début, parce que aujourd'hui j'ai le privilège de pouvoir travailler avec des gens qui eux sont allés à l'école et qui savent faire les choses que je leur demande, quoi, parfaitement, mieux que moi. Maintenant, au début, quand tu commences, où il faut tout faire un petit peu toi-même, là c'est plus compliqué parce que tu sais pas trop te servir d'un ordinateur, parce que t'es pas formé à tout ça. Et puis surtout, je pense que t'as un syndrome de l'imposture
permanent,
un peu permanent, jusque au shift dont je parlais, où on se sent d'un coup plus en face avec soi-même,
on se juge
nous-mêmes avec plus de valeur. Mais très honnêtement, je saurais pas répondre. Ce qui est sûr, c'est que à l'école, t'apprends des méthodes. Et la méthode, pour moi, dans le travail, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc au début, tu fais très peu confiance en ta propre méthode, justement parce que t'en as pas appris. Jusqu'au jour où tu comprends que ta méthode, c'est la tienne et que c'est celle-là qui fonctionne. Et ça, c'est pareil, c'est un autre shift dans une carrière, à mon avis. C'est le moment où tu comprends que la manière dont tu fonctionnes, toi, il ne faut surtout pas essayer de la changer, en fait. Voilà. Moi, j'écris des idées sur des bouts d'enveloppes que je n'ouvre pas parce que j'ai la phobie administrative. Donc, ces enveloppes. Et si je l'écris dans mon téléphone, ça ne marche pas pareil. Si je l'écris dans un notebook, ça ne marche pas pareil. Si je l'écris sur ma main, ça ne marche pas pareil. Voilà, c'est mon truc à moi, c'est comme ça. J'ai l'habitude de faire comme ça. C'est comme ça que mon cerveau mémorise. Ça paraît con, hein, mais voilà, à l'école, on va dire non, mais il faut pas faire ça, il faut voir les enveloppes. D'abord, regarder ce qu'il y a dedans. Et puis, ce que tu as noté, tu le notes dans ton notebook. Mais ça marche pas sur moi. Et je pense que c'est vraiment anecdotique ce que je suis en train de dire, mais sur d'un point de vue beaucoup plus global, c'est une conversation que j'ai et que j'ai pu avoir avec certaines universités, notamment des écoles d'art ou de mode. Cette question de méthode, justement. Parce que souvent, fatalement, quand je vais faire des conférences ou des workshops avec les élèves dans des universités, la question de l'autodidacte revient tout le temps. Qu'est-ce que tu as fait comme études ? Donc c'est toujours délicat de dire aux élèves, j'en ai pas fait.
Sortez vite de là.
Exactement. Donc justement, j'essaie de switcher le propos pour qu'ils comprennent que c'est quand même important de faire des études, mais qu'ils cultivent leurs propres outils, qu'ils cultivent leurs propres méthodes, qu'ils cultivent leur propre personnalité. J'ai fait par exemple en dernier collaboration pour la Biennale de Venise avec l'université d'architecture et de mode de Venise. Je leur ai fait faire des exercices de formules où je leur donnais une image, je leur disais pas ce que c'était un building à Rotterdam ou un screenshot dans le défilé d'Alexander McQueen en 97, tu vois, mais je leur dis pas ce que c'est, je leur demandais de décrire une formule des ingrédients qu'ils voyaient dans ces images là et ce qui est très marrant, c'est que sur 30 élèves dans une classe, tout le monde a sorti des choses différentes. Tous, sauf un ingrédient qui revenait en permanence, qui est l'ingrédient qu'ils ont appris à l'école. Voilà. Ils ont tous un point commun. Disons que dans une équation, il y a 5 inconnus. en tout cas dans celle-là, il y en a qui en avaient 3, il y en a qui en avaient 20, mais il y a une inconnue où ils convergent tous vers les mêmes références, parce que, et souvent c'est des références artistiques ou culturelles qu'ils ont appris à l'école ou sur internet. Tout le reste, c'était ce qu'ils ont mangé la veille, un souvenir d'enfance, qu'est-ce qu'ils pratiquaient comme sport quand ils étaient gamins, en quelque chose de culturel de leur pays d'origine ou de leur ville d'origine. Enfin, toutes les variables étaient différentes sur tous les élèves quasiment. Je leur ai fait présenter ensuite ça, et ce qui était incroyable, c'est qu'ils se sont tous aperçus que, bah, qu'ils étaient différents en fait. Même s'ils apprenaient la même chose à l'école, ça restait des gens différents. Et je pense que c'est un truc qu'on leur apprend pas forcément. Et moi, j'ai le privilège, en étant autodidacte justement, d'avoir eu à cultiver cette différence dès le début. Donc c'est quelque chose qui me paraît hyper important. En tout cas, si je devais tirer un enseignement du fait d'être autodidacte, ça serait le premier. C'est de croire en sa propre méthode et de surtout pas essayer, et c'est très difficile, hein, de surtout pas essayer d'appliquer des méthodes qui sont pas faites pour nous, ou d'essayer d'être quelqu'un d'autre, tout simplement. Mais ça paraît tout con, hein, de dire ça, mais c'est extrêmement difficile en fait dans la vie de tous les jours, surtout dans un métier artistique, créatif, de pas essayer de se prendre pour quelqu'un d'autre, de réfléchir comme quelqu'un d'autre. C'est un exercice extrêmement difficile. Et donc pour terminer sur cette collaboration avec l'Université de Venise, à la fin, les élèves étaient tous étonnés, parce qu'ils étaient tous ils ont tous proposé des choses différentes, mais surtout étonnés de pas avoir de niveau de valeur entre les uns et les autres en fait. C'est-à-dire que quand ils font un travail, il va y avoir des notes et il va y avoir un niveau de valeur. Je suis nul, je suis bon. Voilà, tout simplement. En fait, t'es pas nul ou bon, c'est juste qu'il y a des choses qui sont faites pour toi et d'autres choses qui sont pas faites pour toi. Et c'est un peu le reproche que je pourrais faire à l'école aujourd'hui, c'est que si la méthode ou l'exercice n'est pas fait pour toi, tu vas être jugé comme nul, et si t'as pas la force de caractère ou l'entourage ou la confiance en toi pour persévérer ou pour créer ta propre voie, bah tu vas te considérer, tu vas te mettre dans la case nul, et peut-être que t'as un talent incroyable mais tu seras jamais au courant. Donc le jugement de valeur à l'école, le nivellement à l'école, pour moi, les notes, tout globalement, n'ont aucune importance d'ailleurs. On va pas se mentir, quand j'étais à l'école, elles avaient pas trop d'importance pour moi non plus. Voilà, c'est quelque chose que je trouve assez destructeur finalement, pour beaucoup de gens, surtout les gens comme toi ou moi. Et c'est pour ça qu'on se retrouve entre autodidactes, on appelle ça les communautés de destin. Il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes caractéristiques mentales, on va dire, qui ont le même psyché un peu, ou la même manière de fonctionner, qui se retrouvent à faire sensiblement la même chose, ou dans le même milieu, justement parce qu'ils n'ont pas accroché à certaines voies beaucoup plus académiques, on va dire.
Alors c'est quoi ta... Enfin, j'ai une question qui me taraudait, c'est à quel moment t'as chopé la street cred ? Parce que souvent le truc c'est que...
quand t'es... du rap.
Quand t'as... Ouais, c'est ça. Quand on est autodidacte, etc., c'est quoi les premiers projets ? Qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier ? Qu'est-ce qui fait que t'as été pris au sérieux et qu'à un moment donné, t'as Adidas qui vient de toquer à ta porte pour te dire « je veux bosser avec toi » pour un sujet aussi stratégique que celui-ci ?
Ben franchement,
je sais pas.
Enfin si, je sais, mais je vais pas dire ouais, il y a tel projet tel jour qui je pense a fait que. Je pense que des marques comme Nike, Louis Vuitton, Adidas ou peu importe qui viennent toquer à ma porte. En fait, c'est pas des marques qui viennent toquer à ma porte, c'est des gens qui viennent toquer à ma porte. Et si tu veux, je peux te retracer, enfin on va pas le faire cet exercice, mais sur quasi tous les projets les plus importants que le studio a fait ces 10 dernières années, je peux expliquer très facilement pourquoi en fait. Et à chaque fois, ça tient à une personne. Et cette personne, elle change de métier ou elle est remplacée. Bah, la même marque t'appelle pas en fait, tout simplement. C'est un truc de sensibilité, de réseau, de conversation. C'est souvent des gens avec qui, soit que je connais directement, soit des gens avec qui j'ai partage un réseau en commun. Enfin, il y a toujours un truc qui s'explique assez facilement. C'est assez rarement finalement une marque qui t'appelle, mais c'est toujours une personne, que ce soit le directeur créatif, marketing ou commercial ou le CEO ou peu importe. Mais c'est souvent ça. Et ensuite, pour ce qui est de la magnitude des projets, c'est vrai que le fait de faire beaucoup plus de manier plus le langage que les images de nos jours, ça te donne accès à des conversations avec des gens qui sont peut-être plus au passé dans certaines boîtes, tu vois, et ça te donne accès à toute une case, tout un spectre de projets plus important que quand tu commences ou tu vois, ou on te dit ce que tu dois faire, quoi. Là c'est plus le cas, c'est salut, on parle, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait ensemble, ah ben tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire
et
ça.
Tu parles avec des directeurs créatifs, des CEO, tu parles avec directeur marketing, c'est qui en général tes interlocuteurs?
Ça dépend, c'est souvent directeur créatif ou directeur marketing dans les grosses boîtes, des fois CEO aussi. Et puis très franchement, mais je les vois même pas comme ça, en fait. C'est souvent des gens avec qui j'ai quelque chose en commun, que ce soit culturellement ou en termes de réseau. Et ben, voilà, c'est très rarement des gens qui tombent du ciel, quoi. Très très rarement. C'est vraiment encore une fois, je parle de communauté de destin. Il y a les deux côtés de la pièce. Il y a ceux qui sont comme moi, qui bossent pour eux-mêmes, et puis il y en a d'autres qui réfléchissent comme moi, mais qui bossent pour des marques qui sont dans l'organigramme de grosses marques, et en l'occurrence ils ont aussi envie de bosser avec des gens qui leur ressemblent, donc tu vois, il y a un truc de confiance un petit peu mutuelle, de langage, de conversation. C'est très rare que je connecte avec les gens avec le travail, finalement. On parle de voyage, on parle de musique, on parle de sport, on parle de tout un tas de choses. C'est le premier truc dont je parle avec les gens, c'est ça, en général. On connecte sur un plan humain et ensuite on connecte avec le travail, mais c'est extrêmement rare que je fasse un rendez-vous de travail ou un premier rendez-vous de travail avec une marque et que ce rendez-vous soit strictement professionnel. C'est même quasi jamais le cas, en fait. Et je pense que c'est aussi quelque chose d'important de cultiver ça dans son travail. Je pense que la manière dont tu vis, je pense que tes passions, tes obsessions, tes goûts en disent beaucoup plus sur ton travail que ton travail lui-même, quoi. Tu vois, donc la première question, c'est comment tu te présentes aux gens. Bah, c'est très rare que je présente mon travail aux gens. Je présente plus ma vie ou qui je suis ou ce que j'aime. Voilà, j'essaie de connecter avec les gens sur ce qu'on a en commun, que ça soit encore une fois artistique, musical, culturel ou autre. Et c'est ça qui est hyper déterminant, je pense, dans le rapport de confiance que je peux avoir avec les gens avec qui je travaille aujourd'hui. Je pense que t'accordes ta confiance aux gens quand tu sens qu'ils te comprennent. T'accordes pas forcément ta confiance aux gens quand tu sens qu'ils sont juste professionnels, en fait.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Donc sur des boulots aussi gros que penser toute l'articulation culturelle, narrative et artistique ou créative d'une énorme marque aujourd'hui, tu dois connecter avec les gens. Tu dois connecter avec les gens sur un plan humain parce qu'il faut qu'ils te fassent confiance, en fait. Tu vois, c'est tellement des trucs hors sol, c'est tellement subjectif, finalement, parce que je vais dire il faut faire comme si, mais en fait j'ai pas la vérité, moi, c'est juste ce que je pense, tu vois. Donc tout est basé sur un rapport de confiance beaucoup plus que sur un rapport purement professionnel et pragmatique, quoi.
Comment tu travailles, je sais pas, est-ce qu'on peut prendre un exemple spécifique? Tu parlais tout à l'heure de Adidas. Ça paraît tellement immense de tacler ce sujet là Comment tu travailles? C'est quoi la méthode de Thomas Subreville, finalement?
C'est d'écrire sur des bouts d'enveloppe.
Putain, on n'est pas sorti de l'auberge.
Non, mais la méthode, c'est qu'il n'y en a pas vraiment, en fait. Je pense qu'il
C'est une vision.
Il y a une formule. En fait, il y a une formule qui est un peu toujours la même. J'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, j'estime que quand un projet arrive, qu'il soit personnel ou artistique ou commercial, entre guillemets, commissionné, la formule est la même pour moi. J'écris une équation, toujours.
Une équation?
Ouais, c'est-à-dire que c'est une équation à plein d'inconnus, même le résultat est inconnu, tu vois, et ensuite c'est x, y, z. Et j'essaie de remplir les trous, voilà. Quels sont les ingrédients? En fait, on évolue dans un monde tellement visuel, on se fait bombarder toute la journée d'images, dont souvent très cool d'ailleurs, hein, que j'essaie de me dédouaner de la partie de l'expression visuelle d'un projet au début, le plus possible. Et avant de réfléchir avec des images, je réfléchis avec des mots. Voilà. Donc ma méthode, c'est vraiment poser des mots. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de voir dans ce projet? Comment je l'imagine? Quels sont les ingrédients de cette équation? Et une fois que j'ai défini les contours de cette équation, une fois que j'ai posé cette équation, souvent, dans mon cas, il y a souvent trois ingrédients. Ça plus ça plus ça.
Égale Adidas.
Égale... Non, ouais, alors on parle beaucoup d'Adidas, c'est bizarre parce que j'avais jamais travaillé avec eux avant, en 15 ans.
Non, mais on peut dire
mais
Chanel,
ça peut être, ouais, voilà, exactement, ça peut être ça peut
un artiste, etc.
Exactement. Mais encore une fois, même pour un projet d'expo ou un projet perso, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que j'ai envie de voir au final et quels sont les ingrédients qui composent ce résultat-là? Une fois que cette équation est posée...
Et c'est quoi les types de mots que tu mets?
c'est des adjectifs un peu à la con, tu vois. C'est pas des mots ultra réfléchis. C'est des mots qui me viennent de manière assez spontanée, ouais, en général, non, et que j'affine ensuite pour
urbain,
que soit
cool.
Non, urbain, jamais de la vie, ça c'est sûr. j'ai jamais posé, et Dieu m'en préserve, et je poserai jamais le mot urbain. Le jour où je pose le mot urbain dans une équation, dites-moi-le et j'arrête tout de suite de travailler.
Non, mais c'est quoi le type d'adjectif? C'est wild, c'est...
Le type d'adjectif, ça va être, je sais pas, industriel par exemple. Tu vois, ça va être sophistiqué, ça va être
elevated. Ouais.
Non,
non, c'est pas bon celui-là.
Non, c'est pas bon parce que elevated, ça veut dire beaucoup. Et après, si tu me dis industriel, tu m'amènes directement dans un monde.
Ouais.
Ouais. J'y vois déjà. En fait, c'est des adjectifs auxquels j'appose des images. Et ça, c'est un exercice qui est hyper important dans ce process et que j'encourage tout le monde à le faire d'ailleurs. C'est comment mettre des images sur des mots et des mots sur des images. C'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire parce qu'il faut verbaliser les choses pour le faire. Réellement, il faut en parler. Il faut parler de son travail, de son process pour comprendre ça. Mais mettre des mots sur des images. C'est-à-dire, souvent on croit qu'on a une idée, mais on n'a pas une idée en fait. Parce qu'au moment de la verbaliser, on bégaye et on s'aperçoit que c'est pas vraiment encore ça.
C'est
quoi.
Une sensation. C'est...
Exactement, c'est un truc très flou en fait. Donc ça, c'est dans le sens mettre des mots sur des images. Et mettre des images sur des mots, c'est le step juste après l'équation. C'est bon, bah, maintenant qu'on a cette équation, comment ça se traduit de manière beaucoup plus visuelle, pragmatique quoi.
Pourquoi 3?
Bah 3, c'est plus... Là pour le coup, c'est vraiment subjectif, c'est moi. Parce que j'ai l'impression qu'en 3 ingrédients, on peut définir une direction assez clair, mais ça pourrait être, enfin, 2 ça me paraît très limité et plus brouillon, ça me paraît accessoire quoi.
Ouais,
tu vois,
c'est trop.
Ouais, exactement. Mais encore une fois, c'est un cheminement très personnel hein, cette équation. C'est alors je la peaufine pour qu'elle soit entendable par les gens ou compréhensible par les gens avec qui je travaille ou alors les clients avec qui je travaille, mais dans un premier lieu elle est vraiment complètement... C'est un travail vraiment personnel, tu vois. Peu importe qui la comprenne, il suffit que moi je la comprenne dès le début, quoi, tu vois. Mais en tout cas, bosser avec des mots plus qu'avec des images dès le début, c'est hyper important dans mon processus parce que je réagis beaucoup plus aux mots qu'aux images. Les images, tu peux avoir une image magnifique, mais qui veut pas dire grand chose finalement. Alors que les mots, c'est voilà, chaque mot a une portée, une définition, appartient à un langage. Voilà, en tout cas, personnellement, c'est ce qui me paraît le plus adéquat à ma. Ou adapté à ma manière de fonctionner. Mais encore une fois, c'est un process très personnel.
Donc tu ponds 3 mots au CEO de Adidas et t'envoies ta facture, quoi. C'est ça.
Bon, on en parle un peu quand même.
Ouais, on
échange
un petit peu.
Pourquoi ces mots, quoi.
Ouais.
Non, mais ce qui est, en fait, il y a un truc qui est important. Je reviens, j'ai fait un petit rewind sur la question de l'autodidacte. Parce que je pense qu'une fois que, et ça c'est très important dans ma manière de fonctionner à moi, une fois qu'on se dédouane de tout aspect technique, académique, on va dire, ou savoir-faire des choses, on s'offre beaucoup plus de latitude, de flexibilité dans sa manière de réfléchir. Et si je viens de parler du fait de bosser avec des mots, c'est aussi parce que j'aime bien l'idée de... On rigolait à l'instant sur le fait d'envoyer une formule avec 4 mots à Chanel ou Adidas ou Nike ou je ne sais qui. Mais en fait, ce qui est très important dans cette méthode-là pour moi, c'est que le fait de bosser avec des mots ne limite pas dans la forme. Si je bosse avec des images ou des références visuelles dès le début, je vais être tout de suite limité dans la forme des choses par tout un tas de paramètres. La même formule peut s'appliquer à une chaise, un building, une veste, un défilé de mode, une exposition, un livre, une photo, un film. Voilà. En fait, ce qui est très intéressant pour moi, c'est d'écrire des choses qui peuvent se traduire de manière radicalement différente. Et j'aime bien l'idée, à chaque projet que je commence, que ce soit, encore une fois, designer une chaise ou faire des vêtements ou faire du conseil pour des grosses marques de mode, bah, si j'utilise la même formule, c'est justement parce que non seulement c'est la formule qui me convient et me définit le mieux, mais aussi parce que je sais que cette formule, je peux l'appliquer dans un deuxième temps à peu près à tout. Et ce qui est important quand on fait des projets aussi larges que redéfinir toute une marque, c'est qu'il faut être capable de donner, de livrer un, une équation, comme je disais, ou une formule qui puisse se traduire à travers du design de produit, à travers la communication de la marque, à travers une installation physique, à travers le langage qu'ils utilisent, à travers tout un tas de choses. Et ça, c'est quelque chose que j'applique à peu près à tout. Et encore une fois, même pour un projet d'installation artistique ou un projet de vidéo ou des choses plus niche entre guillemets, ou même musicales, je vais y appliquer la même formule, parce que ce que j'aime le plus, je crois, c'est ne pas faire une chose, mais créer un contexte. Si je dessine la chaise qui est, ou la table là, sur laquelle on est, devant laquelle on est assis, jamais je vais imaginer la table. Je vais tout de suite essayer d'imaginer le contexte qu'il y a autour de la table. Finalement, le design de la table, il m'intéresse que très peu. Ce qui m'intéresse, c'est comment je vais la contextualiser. Quel est le contexte narratif, quel est le contexte culturel, quel est le contexte organique, physique, autour de cet objet-là ou autour de ce projet. Et ça, encore une fois, ça marche à peu près avec tout. Ça marche avec une entité aussi grande qu'une grosse marque de mode, mais ça marche aussi avec un objet microscopique, tu vois. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon travail, mais qui est aussi devenu, et on parlait de ça tout à l'heure, une des raisons pour laquelle les gens viennent voir le studio aujourd'hui. C'est pas un projet, c'est justement une multitude de directions dans lesquelles ce projet pourrait être.
Tu peux nous donner un exemple d'équation concret que t'as fait, qui est passé au filtre du temps, etc., qui a été pesé, sous-pesé.
Très honnêtement, je n'ai pas en tête qui pourrait être compris comme sans tout le contexte qu'il y a autour. T'imagines bien que quand il y a une équation, il y a 50 pages de. Ou alors 5 heures de conversation qui s'en suivent pour expliquer le pourquoi du comment et comment justement cette équation peut être exprimée dans tout un tas de manières différentes. Mais je te donne un exemple, je peux t'en donner plein même. J'arrête pas de parler de chaises parce que, tout simplement, l'an dernier, j'étais invité par un designer norvégien assez culte qui s'appelle Peter Hofsvik, qui dessinait des chaises ergonomiques dans les années 70-80, qui a fait des choses assez incroyables, a réinterprété, redesigné, repensé une de ces chaises de mon choix. Voilà, c'était une collaboration assez intéressante. Bien sûr, j'ai bossé sur la chaise, bien sûr, le design de la chaise m'intéresse, bien sûr, la chaise en tant qu'objet m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est comment je vais articuler le contexte autour de la chaise. Donc on a développé une pièce musicale qui allait avec la chaise, dont une partie, c'est une chaise qui est divisée en quatre éléments, les pieds, les jambes, le bassin, cinq éléments, le bassin et le torse et la tête. Donc on a développé cinq soundscapes différents en fonction de chaque partie du corps. C'est une chaise qui a trois positions aussi, on a développé un code couleur qu'on a traduit ensuite visuellement à travers un court-métrage qu'on a shooté ici à Paris, qui explique le pourquoi du comment de ces trois, à quoi correspondent ces trois couleurs-là. Enfin, tu vois, en fait, la musique qui va avec la chaise, la musique que tu écoutes quand tu es assis sur la chaise, la manière dont tu réfléchis quand tu es dans telle ou telle position sur la chaise, la manière dont tu bouges, tout ça, c'est ce qui m'intéresse le plus finalement dans l'objet. C'est pas l'objet en soi, c'est la manière dont tu vas le contextualiser, cet objet. Et par exemple, quand je bosse avec des marques de mode, comme c'est pas mal le cas en ce moment, je vois très rarement un vêtement, j'y vois pas un objet de design, j'y vois un objet culturel souvent. En fait, la veste que je porte aujourd'hui, si toi tu la portes, ça sera un objet culturellement différent, parce que le contexte sera différent, encore qu'on évolue dans un milieu assez connexe, mais la manière dont tu bouges avec, le langage que tu utilises pendant que tu portes cette veste, l'univers culturel dans lequel tu évolues, ta démarche, ton look, les gens que tu fréquentes, les lieux que tu fréquentes, tout ça va faire que cet objet, qui soit encore une fois une veste, une chaise, un livre, peu importe, devient un objet culturel différent. Et je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant dans ce qu'on fait aujourd'hui, c'est articuler ces contextes autour d'un objet ou d'une image ou d'un film qui peut paraître purement esthétique ou créatif, mais qui en fait, à mon sens, ce qu'on appelle l'aspect créatif d'une image ou l'esthétisme d'un projet ne vient qu'en second plan pour justement étayer le contexte culturel et narratif de l'objet ou du projet en question. Je sais pas si c'est limpide ce que je suis en train de dire, mais pour moi, c'est ce qui définit le plus ce que je fais aujourd'hui, avec, et notamment l'aspect commissionné ou l'aspect entre guillemets commercial de mon travail. C'est de définir le contexte, c'est d'analyser le contexte autour. Je ne vais pas aller chez Adidas ou chez Nike ou chez Louis Vuitton ou chez Hermès ou chez Chanel ou peu importe, leur expliquer comment designer leur produit. Ils savent mieux le faire que moi. Mais par contre, on peut discuter de comment l'objet en question évolue. Mmh. On peut expliquer, on peut discuter de quel type de musique, de quel type de langage, de quel type de lieu, d'architecture, de quel type de personne interagit avec l'objet en question. Et je crois que c'est ça aujourd'hui qui définit le plus ce que je fais.
Et alors comment est-ce qu'on est... ça me vient en anglais, je suis désolé, hein, ça s'appelle The Bold Way. C'est relevant. Comment est-ce qu'on est juste quand on... dans ce monde qui va si vite, qui est si complexe, qui est si changeant, qui est, où il y a tellement de typologie maintenant, de courants, etc. Comment est-ce qu'on est juste... c'est intéressant de pouvoir dire que quand on est Hermès, comment est-ce qu'on est juste? Quand on est Adidas, comment est-ce qu'on est juste? Quand on est, une rockstar ou un rappeur, comment est-ce qu'on est juste dans ce monde?
C'est assez subjectif. Je vais utiliser un lieu commun, mais la vérité du jour n'est pas celle de demain. Quoi. C'est ce que je pense aujourd'hui. Dans 6 mois, peut-être que je
le verrai différemment. Et avec la difficulté que ça va très vite.
Mais ce qui est important, je pense, c'est que... Enfin, il y a 2 choses qui sont très importantes. La première, c'est d'essayer de se dédouaner des trends, comme on dit. Anglicisme encore.
Tendance,
ce qui est très difficile parce que on évolue, on est payé pour les comprendre, on évolue là-dedans. On participe à les créer même, donc c'est difficile de s'en dédouaner. Mais je pense qu'avec l'expérience et l'âge, pour parler un peu bêtement, on se dédouane de plus en plus des tendances, comme tu dis. Mais c'est très important, à mon sens, de les comprendre, mais de pas forcément les utiliser. Parce que si tu les utilises, t'es fatalement à la bourre, quoi. C'est, par définition, c'est logique. Oui. Et la deuxième chose qui est encore plus importante pour moi, c'est l'authenticité envers soi-même. C'est-à-dire que si demain je suis en rendez-vous avec la personne la plus importante de la planète, mais que j'y vais les mains dans les poches pour juste dire ce que je pense, c'est très facile à faire. Par contre, si j'y vais pour défendre en courant une tendance ou quelque chose dont moi-même je suis pas complètement convaincu ou que j'aime juste parce que c'est cool, là il va falloir que j'écrive tout en laïus au préalable. Il va falloir que je défende un truc que je connais qu'à moitié finalement. Je trouve que le jour où on se met en tête que si on pense bleu, c'est bleu, même si le reste du monde pense rouge, le jour où on se met en tête qu'on est payé pour penser bleu et pas pour penser rouge, pas pour penser comme les autres, tout devient beaucoup plus simple en fait, tout devient beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus simple d'aller défendre quelque chose dont on est convaincu soi-même, ou défendre quelque chose qu'on connaît, ou défendre quelque chose qui nous passionne réellement. Je peux te parler 10 heures d'affilée du pourquoi, du comment je pense que c'est bien de faire telle ou telle chose, si jamais j'y crois vraiment. Par contre, si j'y crois qu'à moitié, ou si j'y crois mais pour les mauvaises raisons, là ça va devenir beaucoup plus compliqué. Il va falloir que je prépare un petit peu un amont de notre rendez-vous,
que tu puisses broder,
quoi,
si un peu,
ouais. Pour broder, exactement, ouais. Et je trouve que le jour où on... et encore une fois, je pense que la finalité, c'est la quête d'être en phase un peu avec soi-même, ce qui n'est jamais vraiment le cas, hein, mais je trouve que plus on est en phase avec soi-même, plus on assume ses propres choix, plus on assume ses propres goûts, plus on assume ses propres passions, son propre univers, plus tout devient limpide et tout devient facile en fait. Voilà,
c'est quoi,
parce qu'on a moins besoin de se convaincre soi-même en fait. Si, et j'anticipe un peu ta prochaine question, sans aller sur le champ de mes obsessions personnelles, mais si je pense rond et pas carré, si je prends les exemples les plus évidents, mais si je pense rond et pas carré, si je pense bleu et pas rouge, si je pense froid et pas chaud, et que c'est réellement ce que je ressens et ce que je pense d'un point de vue culturel, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue cognitif,
ouais.
Bah, il faut que j'assume ça et c'est ça que je vais proposer, tu vois. Mais c'est très difficile, encore une fois.
Ouais,
c'est très difficile.
Ma question, c'était, c'est quoi tes convictions du moment, mais et surtout avant ça, c'est à quel moment tu il me semble que tu as déjà posé cette question, mais c'était bien de la reposer. À quel moment tu assumes et tu as su, enfin, que tu as fait confiance en fait à ton instinct finalement et à ta croyance.
C'est tout bêtement. Je sais pas la réponse que je t'avais fait à cette question là, mais c'est tout bêtement un truc d'expérience, tu sais. En fait, au fil des années, t'as plus d'expérience, ton statut change. Et quand ton statut change, tout simplement, on te fait plus confiance. C'est tout con, hein, mais c'est le cas, en fait. Plus on te fait confiance, plus t'as confiance en toi pour assumer ces choix-là. C'est sûr qu'au début de ta carrière, sur ton premier projet, tu vas pas débarquer en rendez-vous et dire « moi, je pense ça ou rien », tu vois. Si je me permets d'être comme ça aujourd'hui, c'est aussi parce que on me laisse la liberté de le faire, quoi. Donc c'est facile à dire, hein, ce que
t'as
je dis, mais je peux me permettre de... Et je dirais même, c'est pour ça qu'on m'appelle, tu vois. On m'appelle pour dire ce qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, tu vois. Ce qui n'est pas toujours le cas, hein, fatalement, c'est pas un principe. Mais si je pense différemment de la personne en face de moi, je vais le dire, parce que c'est pour ça que je suis là, en fait, quoi, tu vois. Et encore une fois, ce shift-là, il se fait petit à petit. Il n'y a pas un moment décisif, il se fait petit à petit dans ta carrière. Petit à petit, tu gagnes de l'expérience, tu gagnes en statut, tu gagnes en confiance en toi. Et ça, il n'y a pas de secret, c'est en faisant. Il n'y a pas un jour où tu te lèves et tu dis « bon, bah, ça y est, je vais devenir cette personne-là », tu vois.
Bien sûr. Le Il Studio, tu dis « on ». Et dans moi, ce que j'avais en tête, c'était que il y avait une dimension collective quand même initialement à Il Studio.
En fait, on est deux à avoir fondé le studio. Je dis on parce que, pour plein de raisons, hein, je dis on parce que c'est très difficile pour moi de dire je. C'est un truc vraiment personnel. Je me mets rarement en scène, je communique très peu sur ma propre personne. J'ai une sœur jumelle, donc je suis né à deux déjà. Okay. Et Il Studio est aussi né à deux d'ailleurs, même si ça fait pas mal de temps maintenant qu'on s'est séparés, mais ouais, je dis on parce que je fais jamais un projet seul. Ouais. Même si je le drive seul, c'est jamais moi. Il y a toujours les gens qui travaillent autour de moi, il y a toujours. Et même les interlocuteurs que j'ai, qu'ils soient dans des marques ou dans des galeries ou des musiciens, peu importe, c'est très rarement moi tout seul dans mon coin, quoi. Donc je. Ouais, c'est un peu cette contradiction entre individualité, mon propre moi, j'arrête pas de parler d'être en phase avec soi-même, etc., et un truc beaucoup plus collectif. Mais c'est un peu la base de mon travail, c'est jongler en permanence entre ma personnalité, ce que je pense, mes goûts ou choix ou ma vision personnelle des choses, et la traduire de manière beaucoup plus... transversale, horizontale, verticale et collective, quoi. C'est un jeu de dialogue un petit peu entre ça, sinon on fait les choses pour soi-même et c'est plus intéressant. Tout à l'heure tu parlais enfin je sais pas si on avait commencé ou pas, on parlait de artiste par artiste, est-ce que je me voyais artiste ou pas. Je pense que la différence c'est ça, c'est que je me vois pas faire des choses tout seul pour moi-même tout le temps. Au contraire, j'aime beaucoup le challenge et les conversations que je peux avoir. Et encore une fois, ça fait partie de ma liberté de me lever le matin, de parler de musique avec un artiste, de parler art avec une galerie, de parler mode avec une grosse marque de mode. J'adore ça parce que c'est dire la même chose avec plein de langages différents, avec plein de références, de codes culturels différents. Et ça fait complètement partie de mon travail et ça fait partie des choses que j'aime le plus. J'aimerais pas avoir à me parler juste à moi-même tout le temps, en fait.
Ouais, c'est une question que je me posais, c'est pourquoi faire ce travail pour les autres et pas pour toi-même en créant une marque, je sais pas, la Acne Studio, un truc assez, ouais, un truc pour toi, quoi.
Bah, j'ai l'impression de déjà le faire pour moi-même, en fait, parce que quand je travaille même avec des marques, je le fais pour moi-même, c'est quelque chose qui m'intéresse, je le fais comme... Si tu veux, quand je mets à côté tous les derniers projets que j'ai faits, j'ai pas l'impression de le faire pour les autres. J'ai l'impression de le faire pour moi. Parce que c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois. Et je fais peu de différence entre une installation artistique que je vais faire beaucoup plus auto-centrée, pour le coup, qu'une conversation que je vais avoir pour redéfinir l'expression culturelle d'une marque comme Mercedes-Benz, tu vois, ou une marque de mode, ou peu importe, ou un artiste musical, comme tu disais tout à l'heure. je le fais pour moi parce que ça revient à la question précédente. Je vais juste dire ce que je pense ou faire ce que je pense de toute façon. Donc peu importe avec qui je suis en train de converser ou peu importe le contexte du projet, c'est exactement la même façon, de la même approche, tu vois, que je fasse un truc. Là, je prépare une grosse expo à Milan pour décembre autour de ce projet de dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Adèle PMP.
C'est quoi alors ce projet? Tu veux nous en parler peut-être?
Ouais, je vais t'en parler juste après. C'est un projet vraiment très personnel, peut-être le plus personnel que j'ai jamais fait d'ailleurs. Et en même temps, je fais du consulting pour des énormes marques avec 400 interlocuteurs. Mais je vois pas de différence entre les deux. Pour moi, c'est exactement la même approche, c'est exactement la même chose, c'est exactement la même conversation. Donc, j'ai pas vraiment le feeling de faire ça pour les autres. Sur un projet donné, peut-être, mais je dirais plutôt avec les autres que pour les autres. Et sur l'ensemble de mon travail, par contre, c'est clairement pour moi que je le fais, quoi. Le projet dont je parlais, donc, c'est un projet qui me tient très à cœur, qui est parti un petit peu d'une blague, mais qui s'est avéré être beaucoup plus sérieux que ce que je pensais. C'est un projet qui s'appelle Attention Deficit Disorder Prosthetic Memory Program. Donc, à la base, qui part du postulat que bon, on fonctionne tous un peu comme ça, même si on n'a pas tous un TDAH.
Tu l'es, toi? Tu as un TDAH?
En fait, je parle de neurodivergence.
D'accord.
Pas de TDAH ou autre, je pense qu'on est beaucoup, et je parlais de communauté de destin tout à l'heure, on est beaucoup dans notre environnement à avoir une neurodivergence, peu importe la neurodivergence, qui nous amène à réfléchir de manière différente des autres, de manière alternative, anarchique, et soit ça devient une faiblesse, soit ça devient un super pouvoir en fait. Y a des moments dans ta vie où t'es un peu en intersection de voilà, ça, soit je vais le traîner comme un boulet toute ma vie parce que je réfléchis un peu différemment ou je me sens différent, soit je vais en faire une force et je vais articuler tout mon travail autour de ça. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve dans des milieux comme le nôtre à avoir beaucoup de gens neurodivergents comme on dit, ou neuroatypiques. C'est un terme très académique, hein, très psy, mais c'est un sujet très intéressant. Et donc ce projet a été écrit à la base comme... C'était juste après le... Non, juste avant le Covid. Ouais, juste avant le Covid. Et c'est devenu beaucoup plus gros pendant le Covid parce que, en gros, comme l'indique son nom, c'est comment rationaliser, archiver, indexer tout un tas de choses. Mon téléphone comme le tien, mon ordinateur comme le tien et surtout mon cerveau comme le tien. On est plein de choses qu'on voit toute la journée et qu'on oublie en permanence.
Bien sûr.
On n'a pas envie de les oublier, mais on les oublie. Et enfin, la mémoire sélective est très traître pour ça. Il y a plein de choses que j'aimerais bien oublier, mais que mon cerveau a décidé de conserver. Et il y a plein de choses que j'ai pas envie d'oublier. C'est pour ça que je vais finir à écrire sur des enveloppes d'ailleurs. Donc, l'idée de base de ce projet, c'est comment, vu que notre cerveau jump en permanence, et surtout à travers mon travail, entre tout un tas de choses différentes, comment arriver à garder le fil de tout ça, et surtout comment rationaliser le chaos. Comment trouver une logique dans une manière chaotique de fonctionner. Donc si en gros ce projet c'est je te donne 500 trucs qui sont quelque part dans mon cerveau, dans mon téléphone, dans mon ordinateur ou dans les livres que j'ai autour de moi, comment j'articule ces trucs là, comment je fais de ces trucs là un algorithme, comment je d'un point de vue vraiment personnel à travers mon propre spectre trouve un pattern, une logique dans tout ça. Donc c'est un projet encyclopédique qui a été exprimé de tout un tas de manières différentes, qui est devenu une vraie encyclopédie. On a sorti 2 volumes et on bosse en ce moment sur un troisième, qui est devenu tout un tas de pièces musicales. On a travaillé avec des artistes musicaux un peu partout, justement pour traduire cette idée de chaos qui devient logique et de logique qui devient chaos, d'association de tout un tas de choses qui ne sont pas censées être associées autrement que par ton propre algorithme ou ton propre cerveau. On en a fait des meubles aussi, c'est l'installation, l'expo dont je parlais tout à l'heure que j'ai fait à Tokyo récemment. On en a fait tout un tas de choses et on va continuer à en faire tout un tas de choses parce que c'est un peu un sujet sans fond. Et rétroactivement, ce qui est hyper intéressant, c'est que je m'aperçois ou je me suis aperçu de quelle était ma propre méthode en faisant ce projet. En fait, j'avais aucune idée jusqu'à ce projet-là de quelle était ma méthode, de comment je fonctionnais. Parce que j'avais jamais essayé de le rationaliser, j'avais jamais essayé de le comprendre, j'avais jamais essayé de comprendre pourquoi je réfléchissais de telle manière et pas de telle manière. Et en faisant ce projet, j'ai compris beaucoup de choses. En faisant, c'est presque un projet introspectif, c'est presque un projet... Je parle avec des psychiatres, je parle avec des gens qui sont très renseignés, justement. On parle de ce projet pour essayer de comprendre tout ça. Et ce qui est marrant, c'est que dès que ce projet a commencé à grossir et a été accessible à partir du moment où on a fait le premier volume, le premier livre, il y a tout un tas de gens qui se sont manifestés et qui se sont reconnus là-dedans, en fait. Parce que eux aussi partagent cette manière de fonctionner, eux aussi ont l'impression de réfléchir de manière complètement chaotique pour X raisons, mais souvent parce que neurodivergence. Et il y a plein de gens qui autour de moi, partout dans le monde, qui sont dit « mais moi aussi je réfléchis comme ça ». En fait, dans ce projet-là, je me suis reconnu dans ce projet-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait de formule tout à l'heure, je parlais de cet exercice que je fais faire aux élèves dans certaines universités. En fait, c'est le même exercice, mais appliqué à moi-même, et sur 500 pages, plutôt que sur 3 ingrédients dans une équation. Et si demain, tu dois faire le tien, tu peux faire le tien. Ce sera ni mieux ni moins bien, il sera juste différent. Et c'est ça que j'adore dans ce projet, c'est un peu l'objet du prochain volume, c'est que c'est une mécanique, une formule, une méthode, une manière de fonctionner qui peut s'appliquer un peu à n'importe qui. C'est un projet qui part d'un postulat... Et voire même dans un statut émotionnel et cognitif, psychologique, très personnel, mais qui peut s'appliquer finalement un peu à tout le monde. Au-delà de l'aspect artistique, entre guillemets, de ce projet et de tout un tas de choses qu'on a fait, soit à Milan, soit à Londres, soit à Paris, soit à Tokyo, soit à Séoul, etc. On est en train de pousser la... T'as vu, je continue à dire « on », même si c'est un truc ultra personnel, parce que c'est quelque chose qui est en train de devenir beaucoup plus collectif. La partie éducative de ce projet est en train de devenir beaucoup plus importante que ce que je l'aurais soupçonné. Je pensais au début que ça resterait un projet artistique que j'aime bien faire. Et en fait, c'est en train de devenir un truc qui me tient particulièrement à cœur parce que rétroactivement, je m'aperçois de tout un tas de choses que j'ai fait bien ou mal dans ma vie, dans le passé, de choix. Ou, voilà, tout à l'heure, on parlait d'éducation, de l'école, qui était une tannée pour moi. Rétroactivement, je m'aperçois tout un tas de choses en fait que j'aurais pu éviter, tout un tas de biais, tout un tas de pièges, tout un tas de questionnements qui auraient été quasi impossibles à éviter. Et tant mieux, ça m'a permis d'avancer. Mais en faisant ce projet, je me dis waouh, en fait, peut-être qu'enfin je tiens un truc qui me tient particulièrement à cœur et que je juge beaucoup plus important sur un plan la transmission. Que tout le reste, ce que je fais, je le dis souvent, c'est pas important en fait. On sauve pas des vies, on change pas le monde.
Oui, mais il y a des enjeux quand même qui sont importants.
Il y a des enjeux importants, mais ça reste des enjeux commerciaux, ça reste des enjeux esthétiques, voilà. Il faut pas, on va pas se raconter que ce qu'on fait c'est hyper important. Voilà, on le fait sérieusement, mais il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Par contre, ce projet-là est en train de prendre une dimension, pour moi, beaucoup plus personnelle et importante que tout le reste, tous les autres projets que j'ai faits jusqu'à présent. Il y a quelques semaines, j'ai fait une conférence au Royal College of Arts à Londres, par exemple, où plutôt que de parler de mon parcours, justement, je me suis focus sur ce projet-là et le pourquoi du comment de ce projet-là. Et j'ai eu des conversations très, très intéressantes avec les élèves, justement sur cette idée de méthodologie, sur cette idée de développer ses propres outils, de croire en son propre processus de réflexion, de ne pas se forcer à appliquer celui qu'on nous a imposé, quoi. Par exemple, j'ai eu pas mal de conversations avec des parents d'enfants neurodivergents, justement, sur le comment approcher. Alors, j'ai pas les clés de la vérité, et puis c'est un sujet sans fin. Il y a des gens qui sont beaucoup plus renseignés, professionnels que moi. Il y a des médecins qui sont beaucoup plus aptes à parler de ça que moi. Mais moi, ce que je peux faire, c'est me permettre d'en parler d'un point de vue personnel, d'expérience personnelle. Voilà. J'ai eu très récemment, par exemple, une longue conversation avec un parent d'un enfant neurodivergent qui était perdu à l'école, qui savait pas ce qu'il voulait faire et qui me disait « Mais je comprends pas, mon fils, il fait de l'escalade, il veut être DJ et il fait du skate. C'est ça dans la vie, son kiff, c'est ça dans la vie. » Et ma première réaction, c'est en fait l'escalade, le DJ, la musique, mais surtout DJ en l'occurrence sur ce point-là, l'escalade et le skate, c'est exactement la même chose. En fait. Et ça rejoint toute la conversation qu'on vient d'avoir, c'est que l'approche est exactement la même. Dans l'escalade, dans le fait d'être DJ, dans le skate, il y a un truc d'anticipation, d'un coup d'avance permanent. la formule, le pattern de réflexion derrière ces trucs-là est exactement le même. Et quand tu as une neurodivergence, tu fonctionnes comme ça, t'as toujours, ton cerveau il est toujours un peu, je dirais pas en avance forcément, mais toujours un peu ailleurs de là où il est censé être, si tu veux quoi. Tu vois, que ce soit ton attention span, donc t'as besoin d'une activité où ton cerveau se projette un peu en permanence. Et c'est le cas de l'escalade parce qu'il te faut avoir un coup d'avance sur tes prises, c'est le cas du DJing parce qu'il faut un coup d'avance sur ton disque, et c'est le cas du skate parce qu'il te faut anticiper le positionnement et le mouvement de ton corps et tes jambes un peu en permanence. Tu vois ce que je veux te dire ?
Bien sûr.
Et ça, de rationaliser ces choses-là, en fait, ça rejoint tout ce que j'ai dit au préalable, c'est que de formuler, de verbaliser, de rationaliser, d'essayer de comprendre tout ça, bah ça change tout en fait, c'est hyper utile parce que on revient à la formule, encore une fois. On revient à ce truc de formule, tu vois. Moi en l'occurrence ce gamin, c'est l'escalade, les disques et le skate, mais c'est un truc que tu peux appliquer à tout un tas de choses, tout un tas d'autres choses en
bien
fait
sûr.
Tu vois, et je trouve que la manière dont on va approcher un gamin qui est différent pour X raisons, et c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste différent, qui résonne différemment, qui réfléchit différemment, bah ça peut devenir ultra destructif parce que cette différence ne sera peut-être jamais perçue comme une différence mais plutôt comme une faille, ou ça peut devenir un super pouvoir. Le jour où tu comprends que c'est un super pouvoir, bah tu vas utiliser ça, tu vas articuler ta vie, tu vas essayer de positionner les choses autour de toi en fonction. Et ce projet ADDPMP, c'est un peu ça en fait. C'est comment rationaliser, comment essayer d'articuler la manière dont moi je fonctionne. Mais encore une fois, il n'y a pas d'hierarchie là-dedans. La manière dont je fonctionne moi est juste différente, mais pas mieux ou moins bien, tu vois, que la tienne ou celle de tous les gens sur cette terrasse autour de nous. Mais je pense que d'essayer de comprendre ça, d'essayer de c'est pour le coup, plutôt que d'imposer des méthodes à l'école qui vont à un gamin sur 10, qui conviennent à un gamin sur 10, ce serait bien de plutôt réfléchir à leur faire faire ce genre d'exercice et à essayer de crafter leur propre méthode. Tu vois,
mais comment tu craftes ta propre méthode ? Parce qu'il y a un truc quand même dans les méthodes, il y a un côté rassurant. Moi j'aime bien les méthodes, il y a un côté rassurant, il y a un côté où ça te fait gagner du temps, il y a des schémas, etc. Tu vois, il y a un côté où moi ça me rassure, les méthodes. J'ai l'impression que ça me fait gagner du temps, mais...
Moi ça m'angoisse.
Ouais. Et ça dépend des personnalités.
Moi, ça m'angoissait jusqu'au jour où je comprenne que ce que je pensais être chaotique, c'était une méthode en fait.
Ouais.
Le chaos, c'est une méthode en fait. Écrire sur des enveloppes, c'est une méthode. Peu importe comment tu réfléchis, c'est ta méthode, tu vois. Et si ta méthode, c'est tout retenir de tête, bah cool, tant mieux. Tu vois, si ta méthode, c'est tout noter dans ton téléphone, tant mieux. Si ta méthode, c'est de parler, enfin,
non, mais tu as le truc assez classique, c'est la fameuse plateforme de marque où tu as ta vision, tes missions, tes valeurs, etc. Qui font que finalement tout ça a une cohérence globale. Et pour moi, ça, c'est une méthode qui est bien, pas bien, c'est pas vraiment le sujet, mais en tout cas, il y a un côté où c'est rassurant parce que c'est un langage commun que tout le monde peut comprendre, etc. Et toi, dans ton métier, j'imagine que ils doivent te la ressortir souvent.
Ce qui est hyper intéressant, c'est que, en fait, sa propre méthode, ce qui est intéressant, c'est de la rendre intelligible. C'est que les autres puissent la comprendre. Sinon cette méthode ne sert à rien, en fait. Et j'ai souvent eu ce cas de figure où, en particulier avec des grosses marques qui sont habituées à travailler d'une certaine manière, ils sont complètement déstabilisés au début parce que c'est pas du tout la même méthodologie que d'habitude.
Oui, c'est parce qu'ils ont appris dans leur école de commerce.
Exactement.
Ouais.
Ou en tout cas, on leur a donné une feuille de route le jour où ils sont arrivés dans la marque pour laquelle ils travaillent, et on leur a dit voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne, quoi. Mais on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est là que connecter avec les gens d'un point de vue humain ou personnel, tu vois, de gagner leur confiance, c'est déterminant. C'est que justement, en gagnant la confiance des gens, et je le dis pas d'un point de vue calculateur ou machiavélique, tu vois, c'est vraiment sincère, ça va te permettre d'expliquer que ta méthode, c'est celle que tu juges la mieux pour ce travail-là, et que tu pourras pas le faire autrement. De toute façon, c'est pas un choix. Je peux pas le faire autrement.
Comment tu connectes avec les gens d'ailleurs ?
En parlant d'autre chose que du travail.
Ouais.
Je pense que dans notre travail, ça rejoint la curiosité dont on parlait tout à l'heure, ou la partie analyse de mon travail. Je pense que c'est hyper important quand tu rentres dans une pièce de comprendre les gens à qui tu vas avoir affaire. Et de les comprendre dans le sens culturel, dans le sens corporel, dans le sens émotionnel. Tu vois, je ne vais pas parler à tout le monde de la même manière et je ne vais pas leur parler des mêmes choses non plus. Ouais. Mais tu peux, c'est assez facile de voir sur quelqu'un que cette personne aime bien la nature. Mm. Donc je vais aller, moi aussi, on va parler de ça. Mm. Ou tel type de musique, tu vois. Si tu as affaire à quelqu'un qui écoute du jazz ou qui écoute de la techno de Détroit, tu peux le percevoir assez rapidement si tu veux. Donc je vais partager, mais encore une fois de manière sincère, parce que je parle jamais de sujets juste pour parler ou juste pour faire façade, tu vois. Mais c'est quand même très rare de rien avoir en commun avec ton interlocuteur. Donc je trouve que de trouver quelque chose en fait quand tu t'apprêtes à redéfinir tous les contours d'une grosse marque, par exemple, c'est hyper important de faire comprendre à l'interlocuteur que tu comprends qui il est. Et ça, tu le fais à travers une conversation, à travers des références culturelles, à travers certains codes de langage, tu vois, qui vont permettre à la personne en face de toi de se dire « Ah ouais, en fait, on est pareil, mais on a des choses en commun et on se comprend mutuellement, tu vois. » Et pour moi, cet échange-là, il peut pas se faire à travers un scope of work, il peut pas se faire à travers une liste de livrables, il peut pas se faire à travers le travail purement et simplement.
Ce qui est marrant, c'est que c'est quand même des grands écarts. Quand tu parles au mec d'Hermès ou à un rappeur américain, c'est des mondes qui sont tellement, qui ont l'air tellement éloignés et tellement différents que il faut être un peu déjà, il faut avoir un spectre de culture qui est très large et être un peu un caméléon. Ce qui est marrant, c'est que c'est ça.
Encore une fois, ça fait partie de mon travail. Et c'est ce qui m'intéresse le plus finalement, parce que de parler, pour tous les exemples qu'on vient de citer, de parler de techno de Détroit avec quelqu'un, je peux en parler, il n'y a pas de souci, de parler de mode avec quelqu'un d'autre, de tel type de mode avec quelqu'un d'autre, tu vois, on peut en parler, il n'y a pas de souci, de parler de... Donc c'est ça que je trouve hyper cool dans ce qu'on fait, tu vois, c'est d'arriver à naviguer, et on en revient un peu à ce projet ADDPMP, tu vois, à naviguer en permanence d'un univers à un autre, sans s'y enfermer, mais tu vois, d'arriver quand même à dire ce que tu as envie de dire et te positionner en tant que, pas spécialiste, j'aime pas ce mot parce que je suis pas spécialiste de grand chose, mais par contre ma curiosité fait en sorte que je peux parler de beaucoup de choses, quoi, tu vois. Et la manière dont je vais parler de musique avec quelqu'un, ou de sport avec quelqu'un d'autre, ou de nature avec quelqu'un d'autre, c'est à chaque fois à peu près la même, c'est juste le langage qui change, tu vois. Mais l'approche, c'est, on revient à l'escalade et le skate, tu vois, c'est un peu la même façon de voir les choses, c'est juste traduit à travers un prisme ou des lunettes différentes, quoi, tu vois, à chaque fois. Donc je pense que, encore une fois, on est tous un peu différents, c'est un lieu commun de dire ça, on est tous un peu différents, mais il se trouve que moi je suis un peu boulimique de comment dire, j'ai pas envie de dire, culture c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, mais dans ce cadre là ça sonne pas exactement comme j'ai envie que ça sonne. Je suis très curieux, voilà, je suis très curieux, je me renseigne un peu sur tout, des fois plus ou moins en surface. Il y a des choses, je peux en parler vraiment des heures, il y a des choses, je peux faire simulation de, tu vois, d'être spécialiste, mais je suis pas vraiment spécialiste. Mais je pense que c'est un truc de bird's eye view, comme on dit, tu vois, global, d'avoir une vision suffisamment globale des choses, et surtout, et on en revient à ce projet, de créer des ponts un peu entre tout un tas de choses. Tu vois, moi, les gens qui sont intéressés que par la fashion, les gens qui sont intéressés que par la musique, les gens qui sont intéressés que par la nature ou le sport ou autre, bon, c'est cool, hein, mais je trouve ça dommage parce que...
Ouais, de te fermer à autant de choses.
Je trouve ça dommage parce qu'il y a tellement de ponts entre tout ça, en fait. Mm. Tu vois, il y a tellement... En fait, de regarder la mode à travers le prisme de la nature, de regarder la mode à travers le prisme de l'anthropologie, à travers le prisme de la musique, à travers... Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que de regarder la mode juste à travers le prisme de la mode, tu vois. On parlait tout à l'heure de contextualiser les choses, c'est exactement ça, en fait, tu vois. De regarder en... on est sous les arcades des Palais Royal, de regarder une veste Chanel Opéra ou un sac Hermès, vintage ou peu importe ce qu'il y a dans, dans ces vitrines. Comme ça, en tant qu'objet de mode, tu vois, je trouve pas ça très intéressant. Rien de, c'est beau, ouais, c'est, voilà, c'est pas. Mais par contre, de le regarder à travers le contexte qu'il y a autour de l'époque. Encore une fois, c'est quoi la personne qui portait ce sac, quelle musique elle écoutait en portant ce sac, comment cette personne réfléchissait, quels étaient les autres vêtements, quels étaient dans quel arrondissement, dans quel type de lieu, de building, d'architecture, qu'est-ce qui va avec tout ça. C'est ça que je trouve le plus intéressant dans notre taf, en fait, c'est de contextualiser tout ça. Et pour faire ça, bah, t'es un peu obligé d'avoir une vision hyper horizontale des choses et d'analyser un petit peu, non pas l'objet de manière micro, mais un petit peu le tout le contexte qui va avec. Donc c'est tu vois, c'est pour répondre à ta question, c'est un peu la manière dont on fonctionne. C'est de, quand on débarque dans un premier rendez-vous, et encore une fois, que ce soit pour un projet de collaboration personnelle ou alors un truc beaucoup plus consulting, il n'est pas forcément question de l'objet du rendez-vous en premier lieu, mais plutôt du contexte du rendez-vous. Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'on est en train de se parler, pourquoi on est en train de se parler, et surtout... quel est le contexte autour de telle ou telle marque, de telle ou telle collection, de tel ou tel produit, plus que du produit en soi, en fait. Parce que j'ai pas vraiment d'avis sur la question, et souvent les gens connaissent beaucoup mieux l'histoire du produit en question que moi. Voilà. Donc j'essaie de construire un contexte autour du projet avant de rentrer dans le projet vraiment lui-même, quoi.
Bon, est-ce qu'on a compris comment fonctionnait le cerveau de Thomas Subreville, là ?
J'espère pas, parce que moi, je ne l'ai pas encore complètement... Enfin, je souhaite à personne de comprendre complètement comment on fonctionne. Justement, c'est ça qui est...
qui est riche,
qui est intéressant, ouais. Et encore une fois, c'est la quête perpétuelle de... J'ai appris récemment qu'on n'était pas tous égaux face aux hormones, à notre schéma hormonal. On ne sécrète pas tous le même niveau de... dopamine, de sérotonine, d'adrénaline. Donc il y a des gens qui vont satisfaire de beaucoup moins que d'autres. On n'est vraiment pas tous égaux par rapport à ça.
Ouais.
Et de manière purement physiologique, même, il y a une explication au fait qu'on est tous un petit peu en recherche permanente de ces sécrétions d'hormones. On est tous en recherche permanente d'une sécrétion de dopamine ou d'adrénaline. C'est juste qu'on ne va pas monter... à la même altitude pour l'avoir, parce qu'on n'a pas besoin du même rush ou de la même quantité chacun.
Quelle question tu souhaiterais pas qu'on te pose?
Bah, c'est un peu tout l'objet de cette interview, c'est définir ce que je fais, c'est un petit peu la chose la plus difficile pour moi. Parce que je fuis un petit peu justement le fait de pouvoir le faire, quoi, en permanence. Donc d'avoir à le verbaliser, c'est pas quelque chose dans lequel j'excelle pour le coup.
Qu'est-ce que tu ferais différemment là, dans ton parcours ?
Excuse-moi, il y a quelqu'un qui tape avec un marteau sur un arbre.
Ça doit être le mec du Palais Royal pour s'assurer que l'arbre ne va pas tomber.
Ok. Intéressant.
C'est bizarre, genre.
Qu'est-ce que je ferais différemment ? Très honnêtement,
rien.
C'est pas vraiment une question que je me suis posée.
Ouais.
Probablement rien, parce que je suis très content de ce que je fais aujourd'hui, et si je faisais différemment, je pense pas que je ferais aujourd'hui. Ce qui fait que je fais ce que je fais, c'est le résultant de tout un tas de bons et mauvais choix. Donc très honnêtement, je vois pas quelque chose que je ferais différemment et qui me mènerait à la même chose, qui me mènerait au même point.
D'accord. Et une dernière question, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast ?
Qui je souhaiterais entendre dans ce podcast ? C'est une bonne question, ça. J'aimerais bien entendre... T'as déjà fait Michel Gobert ?
Non.
J'aimerais bien entendre Michel Gobert.
Tu poserais quoi comme question ?
Bah, je trouve que... il y a quelque chose dans lequel je me reconnais pas mal, c'est j'ai l'impression qu'il a un peu inventé son métier et il navigue un petit peu entre plein de champs lui aussi, même si ça s'exprime à travers le biais de la mode, quoi. Les ingrédients sont musicaux et le résultat c'est pas un concert mais plutôt un défilé ou des projets articulés autour de marques de mode. Je trouve ça assez intéressant de l'entendre sur son évolution, déjà, parce que ça fait longtemps qu'il fait ce qu'il fait, et puis tous les ponts qu'il a observé entre les différents milieux artistiques, musicaux, etc. En tout cas, la partie... On parlait de ça tout à l'heure. On appose le mot multidisciplinaire un petit peu à tout aujourd'hui. Je me reconnais très peu dans ce mot. Parce que multidisciplinaire, il y a un côté... je vous les guillemets touche à tout, que je ferme les guillemets, qui est dans lequel je ne me reconnais pas du tout. Mais j'aime bien l'expression post-disciplinaire parce qu'on se dédouane totalement de est-ce que je suis musicien, est-ce que je suis fashion designer, est-ce que je suis ci, là-bas, le reste. Et il y en a sûrement plein d'autres si je réfléchis 5 minutes, mais il fait partie des gens dont je trouve qui selon moi se sont dédouanés et surtout très tôt, beaucoup plus tôt que moi encore, de tous ces. De tous ces schémas, de tous ces schémas-là. Donc voilà, ça m'intéresserait d'avoir son avis sur la question.
Trop bien, parfait. Et eh ben merci beaucoup Thomas. À bientôt.
Avec plaisir.
Salut.
Merci à toi.
Je m'appelle Adrien Garcia et vous venez d'écouter The Bold Way. The Bold Way, c'est aussi une newsletter dans laquelle je vous partage un email par semaine rempli de contenu exclusif, d'idées innovantes et de ressources précieuses pour vous aider à surmonter vos défis et tracer votre propre chemin. Inscrivez-vous dans les notes de cet épisode ou sur theboldway.fr. Last but not least, la meilleure manière de m'aider est de partager ce podcast autour de vous. Si cet épisode vous a aidé ou touché, partagez-le à vos proches et à vos amis. Merci pour votre confiance et à bientôt pour un nouvel épisode.